écoutez RFI, il est 8h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Jeanne Bartoli, dans votre journal, un témoignage rare recueilli par RFI.
Celui d'un médecin palestinien utilisé comme bouclier humain à Gaza par l'armée israélienne. Utilisé notamment lors de patrouilles à haut risque. Récit au micro de Sami Boukhelifa dans un instant. La balle désormais dans le camp de la Russie. L'Ukraine a accepté hier le principe d'un cessez-le-feu de 30 jours après des discussions avec des représentants américains. Les Européens se préparent, eux, à un éventuel accord avec la Russie. Une réunion avait lieu hier à Paris. Les chefs d'état-major des armées de 5 pays européens ont planché sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine. On en parle avec Franck Alexandre. Le dossier de ce 8 heures consacré à l'inquiétude du secteur européen de l'acier après les nouveaux droits de douane américains entrés en vigueur cette nuit. Et puis le PSG qui file en quart de finale de la Ligue des Champions et livre face à Liverpool une performance historique.
Des civils palestiniens utilisés par l'armée israélienne comme boucliers humains.
Plusieurs enquêtes de médias internationaux ont documenté des témoignages ces derniers mois. En début d'année, le Comité international de la Croix-Rouge a établi qu'au moins 9 témoignages de Gazaouis ayant subi ces exactions avaient été jugés crédibles. Selon le quotidien israélien Haaretz, la police militaire israélienne va ouvrir une enquête suite à des pressions internationales. Notre envoyé spécial permanent au Proche-Orient a recueilli depuis Jérusalem, un témoignage rare, celui d'un médecin palestinien qui affirme avoir été utilisé comme bouclier humain par des soldats israéliens à Gaza. Il s'est livré au micro de Sami Boukhelifa.
Une expérience terrifiante, raconte Khaled Ser. Il y a presque un an, le 25 mars 2024, ce médecin gazaoui est arrêté par l'armée israélienne sur son lieu de travail, l'hôpital Nasser, dans le sud de la bande de Gaza.
Ils nous ont arrêtés par groupe de 5 hommes. Ils nous ont complètement déshabillés. On était nus. Nos mains étaient attachées avec des liens en plastique rigide.
Le docteur Khaled Ser a été transféré en Israël. Il est passé notamment par le redoutable centre de détention de l'armée Sde Tayman, baptisé le Guantanamo israélien. Mais avant son incarcération, il affirme que des soldats se sont servis de lui à des fins militaires à Gaza.
Ils m'ont utilisé comme bouclier humain. Ils m'ont obligé à transporter 2 bidons de fuel pour faire démarrer un générateur électrique qui était à côté de l'hôpital, dans une zone très exposée. C'était une mission risquée, en pleine nuit.
Le médecin raconte avoir été également utilisé comme bouclier humain lors de patrouilles. Il a été relâché en septembre dernier, sans charge ni jugement. 23 autres médecins de Gaza, eux aussi arrêtés par l'armée, dénoncent des sévices dans un rapport publié par l'ONG israélienne Physicians for Human Rights. Nadia Abbas est le directeur du département prisonnier de l'ONG.
Un médecin nous a raconté qu'un soldat avait obligé à porter un uniforme militaire israélien pour aller donner des instructions aux civils dans la zone. Un autre nous a dit avoir été retenu pendant 5 jours parmi les soldats à Gaza. Et ils l'ont obligé à leur servir de guide. Ce n'est pas seulement une violation de la loi israélienne, c'est une violation du droit humanitaire international.
Selon Physicians for Human Rights Israël, 250 soignants gazaouis ont été arrêtés durant la guerre. Environ 150 sont toujours détenus en Israël. Sami Boukhelifa, Jérusalem. RFI.
Un témoignage RFI que vous retrouvez d'ores et déjà sur notre site et sur notre application. À noter que les négociations indirectes sur la poursuite de la trêve dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas ont débuté hier au Qatar.
Autres négociations indirectes, celles qui se sont tenues hier à Jeddah en Arabie Saoudite.
Entre représentants américains et ukrainiens, à l'issue de ces discussions, Kiev a accepté la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours. Les États-Unis ont rétabli dans la foulée l'aide militaire à l'Ukraine. Donald Trump annonce qu'il va parler avec Vladimir Poutine, sans doute cette semaine. Et selon les agences de presse russes, le directeur du service de renseignement extérieur russe se serait entretenu au téléphone avec le chef de la CIA. Il s'agirait du premier contact entre les deux responsables depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Justement, préparer une future paix en Ukraine en cas d'accord avec la Russie et plancher sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine, c'était l'objectif d'une rencontre hier à Paris en marge du Forum Paris des Défense et stratégie. Les chefs d'état-major des armées de 4 pays européens, Grande-Bretagne, Allemagne, Pologne et Pays-Bas, étaient présents, aux côtés de la France évidemment, sous le patronage d'Emmanuel Macron. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Jeanne.
Est-ce que l'on sait, Franck, ce qu'il s'est dit lors de cette réunion à huis clos ?
Il s'est dit qu'il faut passer du concept au plan, c'est ce qu'a martelé Emmanuel Macron. Cette rencontre vient poser une première pierre sur ces garanties de sécurité, a ajouté le ministre français des armées. L'Europe compte les forces qu'elle pourrait apporter à Kiev et dessine les contours de ce soutien, un soutien dans la durée, des capacités qui ne seront pas disjointes de celles de l'OTAN pour ne pas braquer de nombreux alliés qui ne souhaitent pas s'engager sans le filet de sécurité américain, principal membre de l'Alliance Atlantique. L'idée soutenue par Londres et Paris de déployer des troupes en Ukraine dans le cadre d'un accord de paix a donc été évoquée. Reste à définir les conditions, le mandat, l'objectif, le financement et les garanties d'une protection américaine, a souligné le ministre de la Défense néerlandais. Il s'agissait donc, Jeanne, d'embarquer le plus de monde possible pour soutenir l'Ukraine, mais aussi d'actualiser les plans otaniens si jamais l'allié américain venait à se désengager du vieux continent.
Et cet après-midi, Franck place aux politiques avec les ministres des armées qui se retrouvent cette fois pour parler budget. Comment financer cette nouvelle approche militaire sans le parapluie américain ?
Et compenser la perte de l'allié américain va coûter cher aux Européens. Dans le cas de la France, la loi de programmation militaire 2024-2030 qui prévoit de consacrer 413 milliards d'euros à la défense, eh bien ce chiffre, il va falloir le revoir à la hausse pour étoffer les stocks de missiles et de munitions, renforcer le renseignement spatial, financer l'intelligence artificielle et le quantique pour rester dans la course, plus d'avions, plus de bateaux, plus de régiments, des investissements incontournables qui s'élèvent à plusieurs dizaines de milliards d'euros supplémentaires et qu'il va falloir financer dès aujourd'hui.
Franck Alexandre, spécialiste défense sur RFI, on continue de parler des Européens qui s'inquiètent pour le secteur de l'acier déjà en pleine crise. Le voilà frappé par de nouvelles taxes américaines, 25% de droits de douane pour tout l'acier et l'aluminium qui entre aux États-Unis. C'est le dossier de ce 8h. Bonjour Nathanaël Vitran.
Bonjour Jeanne.
Du service économie d'RFI. Et pour rendre le sujet plus concret, vous avez choisi Nathanaël de nous parler d'une aciérie en particulier.
Oui, pas n'importe laquelle, celle d'ArcelorMittal à Dunkerque dans le nord de la France, l'un des fleurons de la sidérurgie française et aussi l'usine la plus polluante de France. Début 2024, le numéro 2 mondial de l'acier annonçait un investissement d'1,8 milliard d'euros pour décarboner le site en remplaçant ses hauts fourneaux au charbon par des fours électriques avec le soutien de l'État français. Sauf que voilà, en novembre dernier, deux semaines seulement après l'élection de Donald Trump, ArcelorMittal fait marche arrière et annonce le gel de ses investissements à Dunkerque.
Alors pourquoi ce revirement ?
Alors le président d'ArcelorMittal s'en est expliqué le mois dernier devant l'Assemblée nationale. Il évoque alors un contexte de surproduction mondiale et les règles européennes en matière d'émissions de CO2 qui pèsent sur les coûts de production de l'acier européen.
Dans le même temps, les producteurs d'acier chinois, par exemple, ne portent pas ce coût de CO2. Leur acier arrive en Europe à des niveaux de prix inférieurs à nos prix de revient. C'est une concurrence déloyale. Sans des mesures urgentes et concrètes, nos investissements en matière de décarbonation ne peuvent pas être décidés.
Nathanaël, les Européens ont-ils entendu ce message ?
Eh bien, on le saura dans une semaine. La Commission planche depuis un moment sur un plan d'action qu'elle doit présenter le 19 mars. L'UE a aussi annoncé ce matin des mesures de représailles aux nouvelles taxes américaines qu'elle regrette profondément. Il faut dire que non seulement ces droits de douane américains pénalisent les producteurs d'acier européens sur leur deuxième marché, les États-Unis, il faut aussi imaginer que tous les autres producteurs d'acier dans le monde vont se chercher eux aussi d'autres débouchés et le grand marché européen apparaît comme une cible de choix.
Sur le terrain à Dunkerque, Nathanaël, comment les salariés vivent-ils la situation ?
Alors j'ai posé la question à Gaëtan Lecoq, représentant syndical CGT. Il est très inquiet pour la pérennité du site.
Si ça ne bouge pas les investissements sur la décarbonation, notre espérance de survie industrielle, on va parler en années. Si Dunkerque tombe, ça va faire effet domino. Une famille sur cinq du Dunkerquois, toutes les régions alentours, dépend directement ou indirectement d'ArcelorMittal Dunkerque.
Alors pour autant, même si lui aussi pense qu'il faudrait mieux protéger les frontières européennes, il n'adhère pas aux arguments d'ArcelorMittal, le groupe franco-indien.
S'il y a une surcapacité, pourquoi ils continuent à créer des capacités de production ? En Inde, ils veulent quasiment multiplier par 7 leur production d'ici 2030. Pourquoi ils investissent massivement au Brésil ? Pourquoi ils investissent massivement aux USA ?
Alors pour le syndicaliste, en cas de désengagement européen d'ArcelorMittal, l'État français devrait se tenir prêt, Jeanne, comme l'a fait récemment l'Italie, à nationaliser le site pour le sauver.
Nathanaël Vitran du service économie d'RFI, dossier du 8h, à retrouver sur rfi.fr.
vient, Jeanne, à cette annonce choc de la présidence angolaise concernant le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo.
Après la rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et angolais João Lourenço à Luanda, la présidence angolaise explique sur les réseaux sociaux qu'elle va, je cite, établir des contacts avec le M23 afin que les délégations de la RDC et du M23 mènent des négociations directes à Luanda dans les prochains jours. Kinshasa assure de son côté prendre acte et attendre de voir la mise en œuvre de cette démarche angolaise. Un mot du Portugal où des élections anticipées sont en vue après un vote de confiance perdu par le gouvernement. Le Parlement a voté hier la défiance contre le gouvernement minoritaire de centre droit seulement 11 mois après son entrée en fonction.
Aux États-Unis, le mouvement contre la guerre à Gaza sur les campus universitaires ravivé par une arrestation.
Et celle de Mahmoud Khalil, ancien étudiant de Columbia, l'un des organisateurs des manifestations pro-palestiniennes. Le jeune homme fait l'objet d'une procédure d'expulsion saluée par Donald Trump. Reportage à New York, Lubna Anaki.
Libéré Mahmoud Khalil, c'est l'appel lancé par quelques centaines de manifestants rassemblés ce mardi à Manhattan.
L'idée qu'on puisse être arrêté pour nos opinions est terrifiante et on verra encore plus d'arrestations de ce genre si on ne fait rien pour arrêter ça maintenant.
Diplômé l'été dernier, Mahmoud Khalil était devenu l'un des visages emblématiques du mouvement étudiant pro-palestinien. Son arrestation par des agents de l'immigration alors qu'il est détenteur d'une carte verte a provoqué l'indignation du monde universitaire et des organisations de défense des libertés.
Les universités sont des espaces d'apprentissage censés protéger nos étudiants. Des espaces où ils ont le droit de faire des erreurs, de découvrir de nouvelles idées. Au lieu de ça, les universités sont en train de devenir un terrain d'expérimentation du pouvoir autoritaire.
Quand tu grandis aux États-Unis, on te dit tout le temps, tu as des droits, la liberté d'expression, utilise tes droits. Et quand on fait ça, soudain, on a un gars dont la maison est perquisitionnée en pleine nuit et qui est emmené on ne sait où.
Cette arrestation n'est que la première d'une longue série, a promis Donald Trump qui, la semaine dernière, a supprimé 400 millions de dollars de subventions à Columbia. Mais pour le moment, la procédure d'expulsion de Mahmoud Khalil a été bloquée par un juge qui devrait se pencher sur l'affaire ce mercredi. Lubna Anaki, New York, RFI.
C'est une interview qui fait beaucoup de bruit en Iran.
Et un ancien responsable des gardiens de la révolution reconnaît publiquement dans une interview qu'il a commandité des assassinats d'opposants iraniens sur le sol européen dans les années 80-90, notamment celui de l'ancien premier ministre Shapour Bakhtiar en France, alors que le régime iranien a toujours nié être derrière ces assassinats, Muriel Paradon.
Il n'y va pas par quatre chemins. Mohsen Rafikdoust, ancien haut responsable des gardiens de la Révolution, admet dans une interview à un site iranien avoir envoyé des hommes pour assassiner l'ancien premier ministre du Shah d'Iran, Shapour Bakhtiar, réfugié en France et qui s'opposait au nouveau régime islamique. « C'est moi qui ai donné l'ordre de l'assassiner », affirme-t-il. Le 18 juillet 1980, il charge Anis Nakash, un Libanais pro-iranien, d'éliminer Bakhtiar à son domicile de Neuilly-sur-Seine. Mais ce dernier s'en sort alors que deux autres personnes sont tuées, dont un policier. Nakash est condamné à la prison à vie et devient l'enjeu d'un bras de fer diplomatique entre Paris et Téhéran. Mohsen Rafikdoust se rend alors en France pour négocier, dit-il, la libération de Nakash qui a entamé une grève de la faim en prison. Il rencontre alors le chef de la diplomatie de l'époque, Roland Dumas, et rapporte cette curieuse conversation.
J'ai demandé au ministre si j'obtiens de Nakash qu'il arrête sa grève de la faim, quand pourra-t-il être libéré ? Ça prendrait 2 semaines, a-t-il répondu. Alors je lui ai dit, si au-delà de 2 semaines ce n'est pas le cas, ne vous étonnez pas qu'une de vos ambassades explose ou qu'un de vos avions de ligne soit détourné. Et il a été libéré.
Anis Nakash est gracié le 27 juillet 1990 par François Mitterrand, le président de l'époque. Shapour Bakhtiar, lui, sera finalement assassiné 1 an plus tard par un autre commando.
Muriel Paradon.
Enfin du football, Jeanne, le Paris Saint-Germain a réalisé hier l'exploit d'éliminer Liverpool.
Exploit XXL pour les Parisiens à Anfield à l'issue des tirs au but. Qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Récit de la soirée avec notre envoyé spécial, Cédric De Oliveira.
Épuisé mais soulagé, tendu puis tout simplement heureux, Nasser El Khelaifi est passé par toutes les émotions à Liverpool. Le président du PSG qui a conscience d'avoir vécu un moment particulier pour son club.
Soirée parfaite pour nous, les joueurs joueurs, les coachs, le staff, tout le monde, les supporters. On a mérité cette qualif. Pas facile, mais j'ai le sentiment avant le match, j'ai dit, c'est notre soir.
Il fallait un grand PSG pour s'imposer à Anfield. Il y a eu ce but rapide d'Ousmane Dembélé pour effacer la défaite de l'aller. Et puis cette séance de tir au but survolée par Gianluigi Donnarumma qui a sorti deux tentatives des Reds. Fautif la semaine dernière au Parc des Princes, le gardien italien s'est rattrapé et son capitaine Marquinhos s'en réjouit.
On est très heureux pour lui. Avant les tirs au but, j'ai dit, ce match, il est fait pour toi. Il a montré ce qu'il est capable. C'est un grand, c'est un grand. C'est un mec qu'on veut vraiment qu'il soit décisif comme ça parce que ça nous fait vraiment de bien.
En éliminant le Liverpool de Mo Salah, encore impuissant, le PSG a montré à toute l'Europe qu'il était un candidat sérieux à la victoire finale. Mais pour Ousmane Dembélé, il y a encore du chemin.
Il n'y a que des favoris. Quand on voit le FC Barcelone jouer, le Real Madrid qui est encore dans la compétition, l'Inter, il n'y a que des grosses équipes et t'arrives en quart de finale. C'est que la bagarre qui est là.
La prochaine bagarre en quart de finale aura lieu dans un mois après la trêve internationale. Le temps pour le PSG de se remettre de ses émotions. Cédric d'Olivera, Liverpool, RFI.
Les qualifications aussi hier pour le FC Barcelone, le Bayern Munich et l'Inter Milan.
Et on en reparle dans le journal des sports dans une demi-heure. Merci Jeanne Bartoli, 8h15 à Paris. À la une de la presse internationale, Frédéric Couteau, la balle dans le camp de la Russie.
Oui, cette petite phrase du secrétaire d'État américain Marco Rubio hier soir est largement reprise ce matin dans la presse. À Jeddah, donc en Arabie Saoudite, après plus de 8 heures de discussion hier, les délégations américaines et ukrainiennes sont tombées d'accord. Washington accepte de reprendre immédiatement son aide militaire et de renseignement à l'Ukraine. De son côté, Kiev accède à la proposition américaine d'un cessez-le-feu d'un mois. Le texte sera soumis aux Russes dans les tout prochains jours. Et en effet, la balle est donc dans le camp de la Russie. Tous les regards sont tournés vers Moscou, s'exclame le Guardian à Londres. C'est un revirement vertigineux, s'exclame le quotidien britannique après la dispute entre Zelensky et Trump dans le bureau ovale et l'abandon apparent de la stratégie de la Maison-Blanche qui consistait simplement à faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle accepte un accord de paix. Aujourd'hui, pour la première fois, la Russie est invitée à s'engager.
C'est maintenant Poutine qui est dos au mur, renchérit Die Welt à Berlin.
Les États-Unis proposent un cessez-le-feu complet et c'est une chose que le Kremlin peut difficilement refuser sans s'attirer les foudres de la Maison-Blanche. La phrase clé de la déclaration conjointe des deux délégations hier à Jeddah n'apparaît que dans le quatrième paragraphe, pointe le quotidien allemand. Le cessez-le-feu d'un mois convenu entre Kiev et Washington doit désormais être accepté par la Russie et également mis en œuvre. Pour les Américains, un niet de Moscou ne serait guère compréhensible. S'ils disaient non, malheureusement, nous saurions qui est l'obstacle à la paix, a déclaré Marco Rubio. Vladimir Poutine doit comprendre cette phrase comme une menace.
Alors la Russie va-t-elle accepter ce plan ?
Eh bien, c'est loin d'être évident, pointe le Washington Post. Le Spiegel à Berlin est même convaincu du contraire. Vladimir Poutine n'a absolument aucun intérêt à relâcher la pression sur l'Ukraine avant d'avoir atteint ses objectifs, que ce soit militairement ou par le biais d'un accord de paix unilatéral. Et le site en ligne du magazine allemand s'interrogeait. Poutine va-t-il refuser l'offre ? Va-t-il gagner du temps ? Ou bien va-t-il accepter tactiquement, mais en réalité saper l'accord ? Et puis sur le terrain, s'interroge encore le Spiegel, comment mettre en œuvre un cessez-le-feu sur plus de 1000 km de front ? Il est évident que le respect du cessez-le-feu depuis la mer Noire jusqu'à la frontière biélorusse en passant par le Donbass ne pourra pas être contrôlé efficacement. La ligne de front est trop étendue.
El País à Madrid reste tout aussi prudent.
La valeur de l'accord d'hier devra être testée dans les faits, sur le terrain et surtout au travers de l'attitude de la Maison-Blanche envers le Kremlin. Les concessions que Trump pourrait offrir à Poutine seront décisives pour le convaincre d'accepter. Jusqu'à présent, on relève encore le quotidien espagnol, l'attitude du président américain a été plutôt complaisante pour ne pas dire complice. Compte tenu du maximalisme de Poutine, soutenu jusqu'à présent donc par Trump, il est nécessaire d'exiger un cessez-le-feu assorti des garanties de respect les plus solides.
Dubitatif également, le soir à Bruxelles.
De nombreuses questions se posent à l'orée de ce déblocage historique, avant même de connaître la position russe. Comment cette trêve sera-t-elle observée ? Et que se passera-t-il si le Kremlin ne respecte une nouvelle fois pas sa parole ? Chez les Ukrainiens et les Européens, le scepticisme est de mise, pointe le quotidien belge, car le souvenir des accords de Minsk de 2019 reste vivace. À l'époque, un cessez-le-feu avait été conclu pour la guerre du Donbass, déjà, ce qui n'avait pas empêché les soldats russes de pénétrer sur le territoire ukrainien le 24 février 2022.
Enfin, pour le Devoir à Québec, il y a trois grandes inconnues.
Oui, la Russie va-t-elle respecter cet accord de cessez-le-feu ? L'Ukraine va-t-elle pouvoir compter sur une force européenne de maintien de la paix ? Et que va-t-il arriver
arriver aux territoires ukrainiens sous occupation russe. En acceptant hier de négocier immédiatement avec la Russie un cessez-le-feu, l'Ukraine risque de devoir chercher la quadrature du cercle, des concessions territoriales trop grandes dans le cadre d'un plan de paix orchestré par Washington favoriserait, estime le quotidien canadien, l'agresseur aux dépens de l'agressé et elle serait tout aussi immédiatement rejetée par les Ukrainiens.
Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale. Après de multiples revirements, c'est donc aujourd'hui qu'entrent en vigueur les nouveaux droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium décidés par l'administration Trump, plus 25%. L'Union européenne est visée et l'Espagne, troisième pays producteur derrière l'Allemagne et l'Italie, s'inquiète évidemment des conséquences de ces nouveaux droits de douane. Dans le nord de l'Espagne, du Pays Basque aux Asturies, où sont implantées les principales usines de fabrication et de transformation du métal, le secteur contribue à hauteur de 10% du PIB local. Une économie très dépendante du marché européen, lequel connaît un ralentissement qui préoccupe beaucoup, comme l'a constaté Diane Combe, notre correspondante qui s'est rendue à Riron, fief de la métallurgie des Asturies. Reportage.
Deux hauts fourneaux crachent jour et nuit leurs flammes et fumées au milieu d'un enchevêtrement de tuyaux et d'usines, digne d'un décor futuriste à la Mad Max. C'est la cité d'ArcelorMittal, le géant mondial de la sidérurgie. Son activité contribue à 12% du PIB local et permet d'employer directement 5000 personnes et 2000 sous-traitants. Parmi eux, Oxyplan, une entreprise de 160 salariés spécialisée dans la transformation du fer et de l'acier. Les clients européens ne manquent pas pour l'instant, comme l'assure Jorge Torres, responsable du département marketing.
Nous sommes actuellement dans un processus de croissance. Notre grande force est de disposer d'une gamme de machines très ample qui nous permet de nous diversifier sur le marché, même s'il est vrai que le marché peut varier et qu'il existe une certaine incertitude générale.
Ce sont les répercussions des frais de douane américains sur le marché international de la sidérurgie qui font perdre le sommeil des entrepreneurs locaux. Car les Asturies exportent principalement en Europe. L'Europe, touchée par les hausses de droits de douane américains. Dans le vaste hangar d'Oxyplan, Jorge Torres regarde avec fierté les pièces d'acier finement coupées, dont certaines vont être exportées en Allemagne.
Tout le marché international va être touché, évidemment. L'Allemagne est la locomotive de l'acier en Europe. C'est un client direct. Mais l'Allemagne est aussi impliquée dans des projets chez nous ou ailleurs avec nos partenaires. Tout se répercute. Et c'est sûr que les frais de douane ne vont rien arranger à la situation actuelle.
La nouvelle conjoncture politique apporte toutefois quelques espoirs financiers pour la métallurgie locale, comme le souligne Bruno Lopez, le dirigeant d'Asturex, une entreprise semi-privée en charge de promouvoir les produits des Asturies à l'étranger.
Il y a une industrie qui ne se voit pas facilement et qui a toujours été là dans les Asturies, qui est celle de l'industrie de la défense. Ici, il existe un hub, un cluster de 40-50 entreprises, dont la majorité sont liées au métal. Et tout ce qui est en train de se préparer en Europe avec la défense va réactiver ce secteur. Ici, on fabrique des blindés et toutes sortes de composants. C'est un secteur qui va avoir du poids dans la production en Asturie.
Le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez a assuré que l'Espagne allait passer de 1,3% à 2% de son PIB en matière de défense, ce qui suppose un investissement de 10 milliards d'euros. Dans les Asturies, le secteur du métal se prépare déjà à accueillir de nouveaux projets militaires.
Reportage de Diane Cambon à retrouver ce soir dans notre émission Accent d'Europe à 19h10. Temps universel, les droits de douane imposés par Donald Trump, le président américain et son administration qui multiplient les revirements à ce sujet. Rien qu'hier, il a été question de passer les droits de douane pour le Canada à 50%. Puis finalement non, il faut suivre. Mais ça n'empêche pas le directeur général de Lego de dormir. C'est ce qu'il a affirmé. Et pour cause, le groupe danois a connu une année 2024 record. Bonjour Ottilia Ferret.
Bonjour.
Correspondante d'RFI dans les pays scandinaves, vous êtes à Stockholm, Ottilia. Lego fait-il figure d'exception dans son domaine ?
Alors oui, clairement. Dites-vous que les acteurs de ce marché du jouet ont enregistré 1% de progression en 2024. Il semblerait que les gens n'ont pas forcément le cœur à jouer ou à dépenser de l'argent. Sauf que de son côté, Lego a réussi à propulser son chiffre d'affaires à un record de près de 10 milliards d'euros. Si on parle chiffre, ça fait une hausse de 13% et un bénéfice net en progression de 5%. Et en euros, ça fait 1,8 milliard. En plus, donc, des sommes qui feraient rêver n'importe quel principales entreprises du secteur.
Mais alors, entre les incertitudes géopolitiques et les menaces de droits de douane dont on parlait, le groupe doit quand même avoir quelques incertitudes pour 2025.
Eh bien, pas vraiment, non. En tout cas, pas de quoi donner des insomnies à Nils Christiansen, le PDG, comme vous le disiez à l'instant. Et ce, même si l'ego est particulièrement présent aux États-Unis. Le directeur a aussi expliqué que ce n'était pas la première fois que le groupe voyait des fluctuations. À chaque fois, nous avons été capables de ne pas surréagir, a-t-il déclaré. L'ego possède notamment une usine de fabrication au Mexique pour le marché américain et en construit d'ailleurs une autre aux États-Unis qui devrait être opérationnelle, celle-ci en 2027. L'ego veut donc maintenir sa belle croissance qui a été renforcée depuis la pandémie de Covid-19. Et même si Trump mettait à exécution ses menaces de droits de douane, on trouvera des moyens de gérer cela, a répété le PDG.
Et comment expliquer, Otilia, la popularité de l'ego, premier fabricant de jeux au monde ?
Eh bien, il semblerait que le secret, c'est peut-être qu'ils font jouer tout le monde, les adultes compris, grâce à Lego Star Wars, Harry Potter, ou encore des partenariats avec le jeu vidéo Fortnite ou Formula One. En 2024, Lego proposait en tout 840 produits, dont 46% étaient nouveaux.
Bon, par contre, on peut se dire que toutes ces briques en plastique, Otilia, c'est pas très écolo quand même, hein.
Alors, c'est franchement pas l'idéal. Pour sa défense, Lego dit que ces petites briques en plastique, il essaye de les rendre vertes. Il indique que la moitié des matériaux achetés pour les fabriquer proviennent de sources durables et il affirme aussi avoir augmenté ses investissements en durabilité environnementale de 68% l'an dernier par rapport à 2023. Cette fois-ci, par contre, on n'a pas de montant précis.
Otilia Ferret, correspondante d'RFI à Stockholm, en direct avec nous ce matin. Merci Otilia, on continue justement de parler environnement tout de suite.
RFI Matin.
L'Afrique héberge 39% des 2600 espèces dans le monde. On parle ce mercredi des termites dans notre question d'environnement. On les connaît surtout, les termites, pour leur appétit dévorant pour le bois ou les livres, ce qui peut nous causer bien des désagréments. Mais vous allez le voir, ça pourrait être encore pire avec le réchauffement climatique, car ces animaux, ils sont très sensibles. Jeanne Richard, la chaleur, c'est une sacrée aubaine pour les termites.
Oui, des chercheurs ont comparé l'activité des termites dans plus de 130 endroits du globe et ils ont conclu que les termites ronge le bois 7 fois plus vite lorsqu'il fait plus chaud de 10 degrés d'une zone à l'autre. Pourquoi un tel appétit quand le thermomètre grimpe ? Pour l'instant, ils n'ont que des hypothèses. Les termites ont peut-être plus souvent l'occasion de se reproduire et donc il y a plus de bouches à nourrir. Ou alors peut-être que les enzymes et les bactéries qui décomposent le bois dans leur ventre fonctionnent mieux quand il fait chaud. Quoi qu'il en soit, les termites deviennent voraces avec la hausse des températures. Et si aujourd'hui ils vivent surtout dans les zones tropicales avec le réchauffement climatique, ils vont aussi pouvoir coloniser de nouvelles terres. Selon les chercheurs, aucun pays ne serait épargné. Canada, Argentine, Finlande ou Iran, en passant par la Namibie et même le Groenland.
Et Jeanne, cette suractivité dans de plus en plus de régions du monde, eh bien, cela fait peser un nouveau risque pour le climat.
Et oui, car les termites produisent des gaz à effet de serre en digérant le bois, qui est composé de carbone, explique Amy Zahn, écologue spécialiste des termites.
Ce qui est drôle avec les termites, c'est que comme nous, ils ont des microbes dans l'intestin qui les aident à digérer. Certains de ces microbes peuvent casser les molécules carbonées du bois et libérer du CO2. Mais la plupart sont aussi capables de libérer du CH4, du méthane. Et donc, comme les vaches, les termites pètent du méthane. Le méthane est 30 fois plus réchauffant que le CO2, même si on le trouve en bien plus petite quantité dans l'atmosphère. Et s'il y a de plus en plus de termites avec l'augmentation des températures, alors on pourrait avoir plus d'émissions de méthane.
Les termites sont d'ailleurs reconnues comme l'une des quatre plus grandes sources naturelles de méthane.
Et alors, est-ce que les termites sont une menace sérieuse pour le climat ?
Pour l'instant, la contribution des pets de termites au réchauffement climatique est quand même assez incertaine. C'est compliqué d'obtenir des données vu le nombre d'espèces différentes, avec chacune leur spécificité. Et puis, les termites ne décomposent pas non plus tout le carbone du bois sous forme de gaz. Une grande partie reste stockée dans leur ventre. Et quand ils pètent du méthane, ce méthane reste souvent piégé dans les termitières où se sont développées des bactéries capables de l'utiliser pour se développer. Des bactéries qui mangent des pets de termites en somme. Quoi qu'il en soit, la production de méthane par les termites est quand même atténuée naturellement et elle reste de toute façon très, très inférieure à ce que nous produisons, nous les hommes, en brûlant du pétrole, du gaz et du charbon.
Jeanne Richard pour la question d'environnement sur RFI. Merci beaucoup à vous. On reste ensemble dans un peu moins d'une minute. L'information africaine, on se retrouve juste après pour le journal des sports à 8h42 et ensuite vous entendrez le dernier épisode de notre série Afrique Économie signée Alexis Bédu et consacrée au projet de mine de fer Simandou en Guinée. Vous entendrez aussi le choix musical d'RFI ce matin, Carmen Lunsman. Restez bien avec nous.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
À l'occasion du Salon du Livre Africain et du Printemps des Poètes, je reçois Véronique Tadjo pour son recueil intitulé « Latérite » qui vient d'être réédité. Des poèmes qu'elle avait écrits lors d'une traversée entre Abidjan et Paris en hommage à la culture Sénoufo, un livre précieux à redécouvrir.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.